les podcasts de Radio Vatican.
Le pape François arrive en Égypte ce vendredi 28 avril, un voyage placé sous le signe de la paix. Parmi les temps forts de cette visite du souverain pontife, ce vendredi après-midi, sa rencontre avec le cher Ahmed Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, qu'il avait reçu au Vatican en 2016. Al-Azhar est une des principales institutions de l'islam sunnite, dont l'université a été fondée au Xe siècle. Elle forme les savants musulmans du monde entier. Mais Al-Azhar est bien plus qu'une université et a un fonctionnement complexe. Pour nous en parler, le père dominicain Jean Druel, il dirige l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, à deux pas d'Al-Azhar, un centre où travaillent de nombreux étudiants azharis.
Al-Azhar est une institution absolument millénaire et absolument énorme, qui est plus grande que l'université. L'université, c'est la partie, disons, la plus visible, la plus connue. Et Al-Azhar est beaucoup plus grand que ça. D'abord, si on part du haut, vous avez le cheikh, donc Ahmed Al-Tayeb, cheikh d'Al-Azhar. Il a, sous sa présidence, plusieurs institutions. La première, c'est la Mashiacha, en arabe. Souvent, ils traduisent par le grand imama, qui sont les services rapprochés du cheikh d'Al-Azhar. Et au sein de la Mashiacha, il y a déjà plusieurs institutions, des bureaux, des services, des petits instituts spécialisés, ce qu'ils appellent aussi l'observatoire de l'islam dans le monde. Il y a même des cours de langue d'organiser, toutes sortes de services qui sont physiquement dans le même endroit et qui sont la Mashiacha. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en arabe les ma'ahed, c'est-à-dire les instituts de l'Azhar. En réalité, ce sont les écoles maternelles, primaires et secondaires. Parce que, j'anticipe sur l'université, on ne peut pas rentrer à l'université de l'Azhar si on n'a pas commencé à la maternelle. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'un million d'enfants, garçons et filles, qui sont scolarisés depuis la maternelle dans un système parallèle au système d'État, dans lequel ils ont le programme d'État plus de la religion. Et donc, il n'y a pas de passerelle. On ne peut pas rentrer du système d'État dans le système de l'Azhar. Donc, quand on commence à l'Azhar, à la maternelle, on va jusqu'à l'université, dans le meilleur des cas.
Ces écoles sont réparties un peu partout en Égypte ?
Partout en Égypte, il y en a dans tous les villages. Donc le programme, c'est le programme normal, national, plus de la religion renforcée. Quand on a le bac azhari, on connaît la moitié du Coran, par cœur, plus un certain nombre de hadiths, plus des... on a fait des études, disons, on a appris un peu aussi la sunna et tout ça. Donc ça, première grosse institution, énorme, une influence très très grande sur la société. Je crois que c'est près d'un million d'élèves qui sont dans ces écoles. Ensuite, l'université. L'université elle-même, pareil, c'est gigantesque, elle a 75 facultés, à peu près la moitié de facultés religieuses et la moitié de facultés laïques, facultés religieuses qui sont réparties dans tout le pays, pas seulement au Caire. Donc c'est théologie fondamentale, prédication musulmane, droit musulman et des facultés laïques. Médecine, traduction, biologie, mathématiques, ingénierie, enfin toutes sortes de facultés totalement laïques. Pour rentrer à l'université d'Al-Azhar, il faut avoir le bac azhari. Et quand on passe le master à Al-Azhar, à l'université d'Al-Azhar, on est censé connaître la deuxième moitié du Coran. Ça veut dire que tous ceux qui ont un master de l'université sont chers. Puisque pour être cher, il faut connaître le Coran par cœur. D'où l'idée que c'est une université uniquement religieuse, mais c'est pas du tout vrai. On peut étudier la médecine, on peut étudier l'ingénierie, on peut étudier la traduction simultanée, on n'est pas du tout obligé d'étudier les sciences religieuses. Troisième institution, il y a ce qu'on appelle le Magma al-Buhuth al-Islamiyya, donc l'Institut des recherches islamiques, qu'on m'a longtemps présenté comme un institut de recherche avancée, une espèce de CNRS musulman. En réalité, pratiquement, leur travail, c'est la censure. Donc c'est eux qui sont... tout ce qui est publié à Al-Azhar passe entre leurs mains. Par exemple, ils révisent tous les programmes scolaires, les programmes universitaires. Le cheikh d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a une emprise finalement assez distante sur l'ensemble. Parce que d'abord, c'est absolument énorme. Et puis deuxièmement, l'université surtout est très attachée à son indépendance intellectuelle. Donc le cheikh Ahmed Al-Tayeb ne va pas du jour au lendemain dire « faites ça, étudiez ceci, n'étudiez pas cela ».
Alors justement, le cheikh, il a un pouvoir important puisqu'il est présenté comme référence aussi de l'islam sunnite. Il y a plusieurs courants, est-ce qu'il est contesté? Comment ça se passe?
En fait, j'ai l'impression que la réputation de l'Azhar est d'autant plus grande que les gens en sont éloignés. C'est-à-dire que le prestige de l'Azhar est infiniment plus important chez les non-musulmans que chez les musulmans. C'est-à-dire, on a un peu l'impression que pour un Égyptien musulman, l'Azhar n'a pas un prestige énorme. Alors que pour un Américain non-musulman, l'Azhar, c'est un énorme prestige.
Comment vous l'expliquez alors?
Je crois que, premièrement, la communication d'El-Azhar marche bien à Dextra. Le cheikh Ahmed El-Tayeb arrive bien à occuper la place vide d'un pape de l'islam. La place est vide, il n'y a pas de pape en islam, il n'y a pas de... Surtout chez les sunnites, il y a énormément de clergés. Ça c'est vrai, il y a beaucoup de clergés sunnites, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas pyramidal. Donc le clergé sunnite est horizontal. Mais comme les non-musulmans ont besoin d'un pape musulman, et que lui dit qu'il l'est, on achète cette idée. Mais de l'intérieur de l'islam et de l'intérieur de l'Égypte, le cheikh Ahmed El-Tayeb, il a un prestige qui n'est lié qu'à sa personne et à son charisme, et pas plus. Ce qui contribue à brouiller aussi un peu les cartes, surtout pour les musulmans non-arabes, c'est que Ahmed El-Tayeb préside le Conseil des sages musulmans, Conseil mondial des sages musulmans, qui est une institution récente dans laquelle il y a, je ne sais plus, une trentaine ou une quarantaine de personnalités musulmanes importantes, le roi du Maroc, des Saoudiens, des Malaisiens, etc. Il y a une femme. Et comme c'est lui qui préside ça, ça renforce cette idée, surtout à Dextra, qu'il est le pape des musulmans. Mais bon, en interne, il y a énormément de courants, alors surtout en Égypte, tout près de lui, y compris dans l'université, énormément de courants musulmans très variés, donc beaucoup de courants salafistes. Le salafisme est très divisé en Égypte, donc il y a plusieurs chers salafistes un peu partout qui ne s'entendent pas trop les uns avec les autres. Il y a évidemment les frères musulmans qui sont aujourd'hui complètement dans les catacombes mais qui sont bien présents. Et puis des libéraux, des soufis, des musulmans traditionnels qui ne se posent pas la question de savoir à qui ils appartiennent. Toutes ces tendances se retrouvent bien sûr chez les parents d'élèves de ceux qui sont dans les instituts jusqu'à la terminale, se retrouvent à l'université parmi les élèves, parmi les professeurs. C'est moins vrai de la Mashiacha, qui est très unie, c'est très resserré comme structure, et très unie autour du cheikh Ahmed El-Tayeb, qui lui est de tendance soufie. Et comme c'est ce qui se voit à l'extérieur, on a l'impression que l'Azhar, c'est une institution soufie. Quand on dit ça à l'interne, ça grince un peu des dents.
Quand le cheikh, par exemple, dit il faut arrêter avec les dhimmi, les concepts de minorité, et il faut plaider pour une citoyenneté unique, c'est quand même très rénovateur comme prise de position. J'imagine qu'il ne s'est pas fait beaucoup d'amis.
C'est un point de vue. C'est-à-dire que si maintenant vous vous mettez à la place du musulman lambda, il va vous dire « Très bien, c'est ce que pense le cheikh Ahmed El-Tayeb. » Il n'est pas le plus compétent pour dire ça parce que ce n'est pas un faqih, c'est-à-dire ce n'est pas un juriste, ce n'est pas sa spécialité, mais il a le droit de dire ce qu'il veut et après tout, son point de vue est respectable, ce n'est pas le mien et puis voilà. Le point de vue d'Ahmed El-Tayeb ne s'impose pas du tout. C'est un des points de vue parmi des centaines et des centaines de points de vue. Donc il se crée des ennemis d'une certaine manière, oui et non. On est content de savoir ce qu'il pense. Après, d'un point de vue purement scientifique, juridique, légal, etc., beaucoup vont dire que ce n'est pas très fondé. C'est gentil, c'est certainement très mystique, c'est une vision un peu idéaliste, mais le droit, il y a des critères, etc. Et donc, voilà. Mais des ennemis, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire qu'après tout, tout est à discuter.
Mais quand le Vatican discute avec le cher, justement, est-ce que c'est une bonne piste? Ou est-ce qu'il faudrait discuter justement avec des juristes, avec d'autres membres peut-être moins médiatiques, moins connus à l'Azhar?
Je vais dire que notre problème comme occidentaux, et encore plus comme occidentaux chrétiens, c'est qu'on veut un pape. On a besoin d'une structure pyramidale en face de nous. On ne supporte pas d'avoir en face de soi, chez les sunnites, une multitude d'interlocuteurs. C'est insupportable. Et on n'arrive pas, on continue, alors même qu'on nous répète sur tous les tons qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le clergé sunnite, on cherche des interlocuteurs représentatifs. Or, ça n'existe pas. Pour dire les choses maintenant de l'autre point de vue, il y a parmi les intellectuels musulmans énormément de conflits de légitimité. C'est-à-dire que chacun voudrait s'imposer. Le roi du Maroc pense que c'est lui. Le roi de Jordanie pense que c'est lui. Évidemment, en Arabie Saoudite, ils pensent que c'est eux. Ahmed El-Tayeb pense que c'est lui. Et puis ensuite, vous avez dans certains musulmans, comme en Indonésie, moi j'étais en Indonésie il y a quelques années, on nous explique, on n'a rien à voir avec tout ça. On a notre islam indonésien, avec notre propre système et nos propres règles d'or, etc. Donc il y a un conflit d'autorité et de légitimité interne à l'islam. D'une certaine manière, eux aussi voudraient bien qu'il y ait un pape musulmans. Mais ça n'existe pas. Et donc, nous, on voudrait qu'il y en ait un, eux, ils voudraient qu'il y en ait un. C'est ça qui rend le dialogue un peu un dialogue de sourds. Alors, que le Vatican dialogue avec le cheikh Ahmed El-Tayeb, c'est excellent. Mais il ne faudrait pas croire que ça le dispense de dialoguer avec les musulmans bangladeshis, avec l'islam européen, avec ça ne le dispense pas. On ne peut pas se prévaloir, mettons, d'une décision ou d'un texte du cheikh Ahmed Tayeb pour l'imposer à des musulmans en Indonésie. Alors tout ça, ça ne vaut que pour les sunnites. Dans le chiisme, il y a un clergé pyramidal hiérarchique, donc ça n'a aucun rapport. Mais si on parle des sunnites, il faut, comment dire, accepter, et je dis ça pour les chrétiens et pour les musulmans et pour les occidentaux et pour tout le monde, il faut accepter qu'il n'y a pas de hiérarchie dont le point de vue s'imposerait à l'ensemble. Ça n'existe pas.
Une dernière question sur ce que vous faites à l'IDEO, l'Institut Dominicain d'études orientales. Vous êtes un peu en tête de pont justement de ce dialogue. Vous avez beaucoup d'étudiants d'un Lazare chez vous. Néanmoins, il a été très difficile de signer un partenariat, et c'est là qu'on voit aussi toutes les divisions au sein de Lazare. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus?
C'est-à-dire que oui, tout ça, c'est vrai. Le fait que, en tant qu'institut dominicain, catholique, perçu comme occidental, on mette un pied dans l'université. Alors, je précise, hein, cet accord de coopération, c'est avec l'université, c'est pas avec. Et encore, c'est une faculté, enfin deux facultés dans l'université. C'est sûr que le fait qu'on mette un pied dans l'université, ça révèle des tensions, des divisions, etc. Et que, après tout, d'une certaine manière, c'est sain. Enfin, c'est bien que les choses puissent s'exprimer, que les tendances puissent s'exprimer. Voilà, c'est très bien. Ensuite, il faut qu'on soit aussi prudent. C'est-à-dire, nous, on est tout petits, parce qu'il faut aussi voir la réalité. L'IDEO, c'est en Égypte 8 chercheurs, et dans le monde, 26 ou 27, on est microscopique, et on ne travaille qu'avec deux facultés, sur, je ne sais pas combien, 700 000 étudiants à El-Azhar, on touche uniquement encore les francophones de ces deux facultés, ça fait au total peut-être 200 étudiants. Donc voilà, il ne faut pas non plus attendre. Enfin, il faut savoir exactement ce qu'on fait, et c'est normal que ça fasse un peu bouger les frontières, ça fasse un peu bouger des lignes. Je sais pas quoi dire d'autre en fait.
Est-ce que justement certains vous ont pas un peu vu comme ceux qui voulaient comme prêcheurs justement convertir certains musulmans?
On a rencontré dans les deux facultés avec lesquelles on a signé cet accord de coopération, on a rencontré des opinions très très différentes, très très variées. Certains nous accusent d'être la tête de pont de l'évangélisation, etc. D'autres, au contraire, nous supplient de travailler avec eux. Et entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup d'indécis qui viennent, qui regardent, qui sont un peu sur la... ils observent, ils voient ce qui se passe. D'une certaine manière, je trouve ça, même si ça ne fait pas très plaisir de se faire accuser d'être des espions et d'avoir des agendas cachés, etc. En fait, c'est plutôt bien que tout ça soit un peu sorti avec le recul. Ça permet de savoir un peu de quoi on parle et à qui on parle. Évidemment, dans le travail quotidien, on va s'appuyer plutôt sur ceux qui sont très en attente de coopération. Ce qu'on peut apporter, et ce qui est intéressant dans le travail avec des étudiants comme ceux des Lazare, donc les garçons et les filles, il y a deux facultés qui ne sont pas mixtes, hein, donc c'est faculté de garçons, faculté de filles, ils ont, et ils le disent eux-mêmes, beaucoup besoin de méthodologie, d'analyse, méthodologie historico-critique, et c'est ça qu'ils viennent chercher ici principalement. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on révolutionne l'islam, ils ne s'attendent pas à ce que... et ils prennent ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, je veux dire, nous, on ne donne pas de diplôme. Ils viennent travailler, ils écoutent, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils nous disent que c'est ça dont ils ont besoin. Ça ne marcherait pas, cette coopération, si nous n'avions besoin de rien. Or, je me rends bien compte que l'équipe de chercheurs ici, on ne pourra jamais connaître la langue arabe, les textes, la culture musulmane, la profondeur, disons, des débats historiques qui a eu lieu en 1500 ans d'islam, aussi bien qu'eux. Et en fait, tous les jours, à chaque fois qu'on travaille ensemble, on se rend bien compte qu'on a besoin les uns des autres. Eux nous apportent leur connaissance de la tradition, nous on leur apporte des outils intellectuels, Ils en font ce qu'ils veulent et nous, on fait ce qu'on veut de ce qu'ils nous donnent. Le tout dans une ambiance très sympathique finalement, où chacun peut s'exprimer et où tous les clichés ont pu un peu tomber les uns après les autres, enfin être tombés sur la table, disons, déjà dans un premier temps, être exprimés. Et ce qui en soi est pour moi absolument inestimable, même si ça ne fait pas plaisir à entendre au premier coup, c'est inestimable qu'on soit sur la réalité des choses. Je me rappelle quand j'étais allé me plaindre au cheikh Ahmed Tayeb qu'on avait entendu tous ces accusations et ces clichés contre les dominicains, il était furieux. Et il m'a répondu, il a convoqué un des profs qui est venu, il était furieux, et il a dit à ce prof, s'il y a dans l'université de l'Azhar une personne, un étudiant, un professeur qui a peur que les dominicains le convertissent au christianisme, c'est urgent qu'il quitte l'université si son islam est aussi faible. Finalement, ça, c'est un peu ça l'ambiance avec eux, c'est-à-dire qu'on met les choses sur la table, on se dit en face de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on n'a pas. Finalement, ça produit, on a déjà fait plusieurs rencontres, c'est absolument fascinant, extrêmement intéressant, et on se rend compte qu'on peut travailler ensemble, qu'on a des approches différentes, etc. Enfin, on a beaucoup gagné avec cet accord. Ce qu'on apporte beaucoup, je dirais, c'est la profondeur historique. On fait finalement peu de dialogues interreligieux contemporains sur des questions qui occupent les gens aujourd'hui, des horaires séparés dans les piscines, des crèches dans les mairies ou des repas halal dans les cantines, c'est pas notre question. Ce que nous on fait ici, à l'IDEO, c'est de donner de la profondeur historique aux questions, de connaître la tradition, d'étudier cette tradition avec des étudiants musulmans pour voir comment eux l'interprètent, pour ensuite, face à des questions contemporaines, fournir des éléments de perspective et de contexte historique et géographique aux chercheurs qui travaillent, eux, sur des questions très contemporaines. Donner de la profondeur historique, je dirais, c'est ça notre travail.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.